autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour nous interroger sur le fonctionnement d'un organe essentiel que nous avons tous en tête, enfin je l'espère, notre cerveau grand maître à bord de nos vies. Pourquoi nous fait-il faire ce que nous faisons ? Comment justifier nos comportements inappropriés ou déplacés, nos prises de décision, parfois irrationnelles, et nos jugements moraux ou immoraux ? Notre cerveau aurait-il ses raisons que la raison ignore ? Notre invité, le biologiste et psychologue Mathias Pessiglione, directeur de recherche en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau, partage ses interrogations, ses recherches et ses découvertes dans un ouvrage détonnant, Les vacances de Homo sapiens, notre cerveau entre raison et déraison. Nous sommes également en direct, en ligne, avec un autre empêcheur de penser en rond, le biologiste, docteur en sciences cognitives et youtubeur Stéphane Debove, de la chaîne Homo Fabulus, qui vient de publier « Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal ? Sommes-nous des êtres moraux ?» Autant de questions ouvertes aujourd'hui et pour mieux titiller votre circuit de la récompense. Chers amis auditeurs et auditrices, sachez que nous avons un exemplaire de chacun de ces ouvrages à vous faire gagner. Autour de la question « Pourquoi notre cerveau nous fait faire ce que nous faisons ?» On se le demande ensemble et sur tous les tons sur RFI, bienvenue.
Alors, il faut que je vous explique une chose. J'ai un problème de cerveau, mon cerveau fait POC. Je vous explique le principe du POC. C'est-à-dire, t'es là, normal, t'es détendu, t'es zen, et à un moment, il y a une émotion qui passe dans ce corps, et tu sais pas pourquoi, ton cerveau fait POC. Et tu te mets à dire ou faire des choses que tu n'assumerais jamais si tu n'avais pas POC. C'est calme-toi, calme-toi. Et à un moment, je sais, j'ai entendu, ça a fait POC. Et j'ai entendu ma bouche qui a fait « Ah là 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 !» C'est enceinte d'un haricot et c'est prêt à doubler une grand-mère presque morte.
Comment éviter de poquer avec l'humoriste Marie Desrolles sur RFI ? Vous allez peut-être nous l'apprendre, Mathias Pessiglione, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir en direct, en studio. Alors je ne sais pas s'il vous arrive de poquer vous aussi, ou de bugger peut-être, mais t'avis que oui, après avoir lu votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, joliment, malicieusement intitulé « Les vacances de Homo sapiens, notre cerveau entre raison et déraison », dans lequel vous partagez avec tous les homos, enfin tous les Homo sapiens que nous sommes, les travaux de recherche que vous menez donc, Mathias, à l'Institut du cerveau à Paris. Vous êtes directeur de recherche INSERM, spécialiste des mécanismes cérébraux qui motivent nos comportements dans les situations normales comme dans les situations pathologiques. C'est peut-être votre double casquette, hein, à la fois de biologiste et de psychologue, qui vous a permis d'inventer dans cet ouvrage qui traite de la puissance de nos émotions, mais aussi de nos conditionnements, du rôle de l'inconscient dans nos prises de décision, d'inventer donc ce personnage de Homo sapiens pour nous faire passer à travers sa colère pendant les embouteillages, son avidité au jeu de poker ou ses disputes avec sa femme à la plage ou sur un court de tennis. Au fond, la question centrale de votre livre et de toutes vos recherches, pourquoi notre cerveau nous fait faire ce que nous faisons, c'est ça ?
C'est exactement ça. Alors à la question, est-ce que je fais POC ? Je pense que oui, je fais POC, je bug comme tout le monde. Je suis un Homo sapiens ordinaire. Et ce que j'ai bien aimé dans le sketch, c'est la dissociation entre le cerveau qui agit, celui qui parle, celui qui tout d'un coup fait la la la, et celui qui observe. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'impression que les deux cerveaux sont exactement alignés. Et c'est un petit peu un des thèmes du bouquin, puisque souvent on s'aperçoit après coup que les choix qu'on a faits ne sont pas rationnels. Et on pourrait dire en quelque sorte que Homo sapiens ou Homo sapiens n'est pas un être rationnel, mais un être rationalisant. C'est-à-dire qu'après coup, on peut dire ce qu'on aurait dû faire.
On peut justifier ses choix.
Mais voilà, exactement.
Mais finalement, on rationalise après coup et on agit très vite sur le coup. On va y venir. De nos émotions, de l'inconscient, de nos hormones aussi, la fameuse dopamine et autres hormones qui sont le carburant de notre cerveau. C'est tout ça qui nous fait interagir.
Eh bien, enfin, on est traversé par beaucoup de déterminisme, c'est là que j'essaye de discuter. Alors effectivement, les émotions, mais aussi le conditionnement, c'est-à-dire qu'on est pris dans des habitudes, dans des automatismes. On n'a pas toujours le contrôle ou la volonté sur ses choix, sur son comportement. On est influencé par les autres. Et puis, on a une machine pour prendre des décisions qui n'est pas une machine idéale, qui est une machine biologique, qui fatigue, qui a ses limites, qui n'a pas des capacités infinies. Et donc, toutes ces contraintes font qu'on est loin d'être rationnel. Et donc, le parti pris...
Avec ce mot sapiens, je m'arrête juste là-dessus, parce que c'est magnifique. Au fond, le dire homo sapiens... Vous nous parlez d'un petit Homo sapiens qui est plus doux. Vous êtes gentil. Faut être gentil avec nous-mêmes finalement. On fait ce qu'on peut, hein, avec notre cerveau et notre corps.
Mais oui, j'essaye de mettre un peu de tendresse aussi parce que dans des temps d'auto-flagellation par rapport à tout ce que l'homme inflige à la nature, par exemple, je trouve qu'il est bon parfois de se dire que effectivement on fait ce qu'on peut. Et donc j'ai moi de la tendresse pour cet Homo sapiens qui essaye d'être raisonnable et qui n'y arrive pas toujours.
On est tous des Homo sapiens. Et puis on y reviendra en fin d'ouvrage. Vous vous posez une grande question. Là aussi, sur un ton humoristique, y a-t-il un pilote sous mon crâne? Et finalement, la réponse, on le verra, loin d'être aussi désespérante qu'on pourrait le croire. Autour de la question pourquoi notre cerveau nous fait faire ce que nous faisons, nous sommes également en ligne, en direct avec vous. Stéphane Deboeuf, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Ah, merci d'être avec nous en ligne depuis chez vous. Ravi de vous entendre sur le versant, on va le voir, un moral ou pas de Homo sapiens. Vous venez de publier, Stéphane Deboeuf, aux éditions Humaine Science, pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal. Car vous, c'est donc notre sens moral qui intéresse le biologiste et chercheur en sciences cognitives que vous êtes. Parallèlement à vos recherches, vous êtes aussi un formidable passeur de science sur votre chaîne YouTube Homo Fabulous, sur laquelle je renvoie nos amis auditeurs et internautes. Vous nous expliquez d'ailleurs pourquoi et comment la morale, c'est bizarre. Ça, c'est à découvrir sur votre chaîne Homo Fabulous. Mais pourquoi d'ailleurs notre cerveau a-t-il ou aurait-il inventé ce truc bizarre qu'est la morale, qui nous gouverne tous, nous, puis on va le voir aussi les autres animaux. La morale, le sens du bien et du mal, c'est naturel, Stéphane Deboeuf?
Alors c'est naturel en partie, comme beaucoup de notre activité mentale, il y a toujours un versant naturel et un versant plus culturel. Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que la morale c'est quelque chose d'entièrement culturel, ou en tout cas de très influencé par le culturel, par l'éducation, par la religion. Et on a raison, parce que quand on se déplace, quand on va en vacances dans un pays différent, on se rend compte que les habitants de ces pays ont parfois des jugements moraux un petit peu différents. Et puis on peut aussi regarder dans le passé et puis se rendre compte que nos sociétés, nos civilisations n'ont pas toujours été aussi morales qu'aujourd'hui. Par exemple, les Romains pratiquaient l'esclavage et beaucoup d'entre eux trouvaient ça normal. Donc c'est certain qu'il y a une part de culturel là-dedans, mais l'idée sur laquelle j'ai travaillé avec mes collègues et l'idée que je défends dans ce livre, c'est qu'il y a également une part de biologique, que derrière toute cette variabilité culturelle que l'on peut observer, il y aurait également des bases biologiques et que tous les humains seraient équipés d'un sens moral. Donc j'emploie le mot sens moral par analogie avec le sens du goût ou le sens de l'odorat.
Ah, ce serait un sens véritable, oui.
Exactement, oui. C'est-à-dire on aurait un petit programme cognitif, un algorithme quelque part dans notre tête qui nous fait nous préoccuper naturellement du sort qu'on réserve aux autres. Voilà, donc on aurait un petit programme cognitif et ce programme aurait évolué par sélection naturelle, c'est-à-dire qu'il aurait évolué parce que au cours de notre histoire évolutive, il aurait apporté des bénéfices de survie ou de reproduction à nos ancêtres.
Eh ben on va y venir justement à cette question de l'évolution de notre sens moral, parce que ce que je trouve intéressant avec vous deux, que ce soit avec Mathias Pessiglione ou avec vous, Stéphane Deboeuf, c'est que vous réussissez à allier des questions donc, de biologie, de neurosciences, mais aussi des questions culturelles, que l'un n'empêche pas l'autre, et qu'on est peut-être fait de tout ça, et de bien plus encore. Voilà de quoi méditer philosophiquement, bien sûr, théologiquement aussi, pourquoi pas, et désormais de manière scientifique. On peut donc étudier scientifiquement notre cerveau, étendre aussi toutes ces recherches aux autres animaux dotés d'un cerveau. C'est tout le sens de l'éclairage du zoologiste et systématicien Guillaume Lecointre, que je propose d'écouter tout de suite. Il est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, il était récemment notre invité. Et voilà ce qu'il pense de notre cerveau face au bien et au mal.
Comment notre cerveau a inventé le bien et le mal? Ça, c'est intéressant parce que c'est... Pour moi, qui suis évolutionniste de métier, ça renvoie à l'émergence des sociétés animales. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont nées partout où, dans la nature, une population d'organismes a fait plus de petits à la génération suivante lorsqu'elle s'entraidait, lorsque ces organismes s'entraidaient, qu'elle n'en aurait fait si elle ne s'était pas entraidée. Et c'est un peu l'idée d'une émergence naturelle des sociétés animales, et la cohésion de ces sociétés, elle est régie par des règles, plus ou moins rigides bien sûr, mais Darwin voit là-dedans une origine naturelle de la morale. Et donc la morale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que dire quels sont les comportements qui sont socialement souhaitables et ceux des comportements qui sont socialement indésirables. Et il n'y a pas de perfection dans la nature. Les sociétés animales nous montrent que l'espèce se maintient parce que dans les sociétés, la plupart des individus ont des comportements socialement désirables. Et puis, une petite fraction de tricheurs, entre guillemets. Et bon, les tricheurs sont vite évincés. Et de toute façon, je vais vous dire, si les tricheurs deviennent majoritaires, cette population n'en parle plus. Parce qu'en fait, elle s'est éteinte. Ce qui était le collectif s'est fait bouffer par les tricheurs. Donc, il ne reste plus de place pour personne. Et donc, l'origine du bien et du mal, est-ce que ça ne serait pas ça non plus, vous voyez ? On appellerait bien les comportements prosociaux, enfin, qui maintiennent en quelque sorte la cohésion du groupe, mal ceux qui la détruisent, en n'oubliant jamais que nous sommes à la fois des espèces territoriales et sociales. Et donc, nous sommes une espèce hiérarchique. C'est comme le loup, hein, quand vous êtes à la fois territorial et social, il y a une majorité de ces sociétés-là, animales, qui deviennent des sociétés hiérarchisées. Et quand on parle de hiérarchie, ça veut dire différence de statut. Et donc, on n'échappe pas au piège que ce qui est bien ou mal, soit régi par ceux qui ont le haut du panier de la hiérarchie. Donc, je n'exclus jamais de mon esprit en disant ça que le bien, c'est peut-être pas toujours le bien de la totalité de la population, mais c'est peut-être le bien aux intérêts de ceux qui dominent.
Et voilà pour l'origine biologique, l'émergence, si j'ose dire, du bien et du mal. Avant de faire réagir Stéphane Deboeuf sur cette question qui l'intéresse beaucoup, Mathias Pessiglione, vous voulez réagir à ce que vient de dire le professeur Guillaume Lecointre sur cette émergence du bien et du mal, qui n'est pas toujours le bien et le mal dont on parle, pas celui auquel on pense tout de suite?
Oui, j'aime beaucoup cette conception, on va dire, naturaliste, hein, de l'émergence du bien et du mal. Et il y a quelque chose de commun avec la théorie de la décision qui, en fait, a été pensée au départ par des économistes qui, à l'époque, étaient déjà philosophes, comme Blaise Pascal, comme Jeremy Bentham, John Stuart Mill, et qui ont une vision conséquentialiste. C'est-à-dire que l'option qu'on doit prendre en toute rationalité, c'est une des façons de définir la rationalité, c'est celle qui a des conséquences positives pour nous, qui vont accroître notre bien-être. Et ces gens-là entendaient aussi fonder la morale sur ce conséquentialisme, c'est-à-dire que la bonne décision, celle qui est morale, ou la bonne action, le bon comportement, c'est celui qui va maximiser le bien-être d'un maximum d'individus. Et ça, c'est la morale conséquentialiste.
Et donc ça, c'est vraiment une morale qui correspondrait à ce que vous appelez un sens, Stéphane Deboeuf, un autre sens que nous avons au cours de l'évolution développée. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le professeur Guillaume Lecointre?
Oui, alors au moins sur une grosse partie, l'hypothèse qu'il avance que la morale, ça pourrait servir à détecter les tricheurs, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens qui sont les plus immoraux, ce sont ceux qui se font moins souvent choisir comme partenaires de coopération. C'est une des hypothèses qui est actuellement étudiée. C'est d'ailleurs l'hypothèse que j'ai étudiée moi personnellement dans mes recherches. Mm-hmm. Et l'idée, elle est toute simple en fait. Hein. C'est-à-dire que si nous deux, Caroline par exemple, on prépare une émission de radio ensemble, on passe plusieurs semaines à travailler ensemble sur cette émission, et la veille de l'émission, je décide de tout annuler d'un seul coup. Vous allez trouver ça pas très sympa.
Non, immoral, pas bien du tout, oui.
Voilà, exactement. Et vous allez refuser de travailler avec moi à nouveau dans le futur. Mmh, mmh. Et donc, ce faisant, moi, je vais payer un coût, entre guillemets, puisque je vais perdre des opportunités de coopération avec vous. Je vais perdre des opportunités de travailler. Et si, en plus, vous me créez une mauvaise réputation... Ouais. C'est-à-dire que vous allez dire à tout le monde que je ne suis pas un partenaire de travail fiable, et ben ça va me donner des coûts encore plus importants.
Donc finalement, dans ces cas-là, c'est ça. Il y aurait un intérêt évolutionnaire, enfin il y aurait un intérêt vital finalement et prosocial à à faire le bien. Mais c'est quoi le bien ou le mal?
Eh ben c'est toute la question, justement. Il y a un chapitre entier de mon livre qui est consacré à cette question, où on pense que c'est lié à une histoire de coups d'opportunité. Faire le bien, ce serait ne pas faire subir de ce qu'on appelle des coups d'opportunité aux autres. Alors c'est un concept qui vient de l'économie, qui est pas très compliqué, mais qui est quand même peut-être un peu subtil à expliquer ici. Mais l'idée, c'est que, par exemple, si je reprends mon exemple de l'émission de radio qu'on prépare ensemble, il ne faut pas que je vous fasse perdre du temps. Voilà. Si j'annule l'émission la veille de l'émission, je vous aurais fait payer un coup d'opportunité parce que tout ce temps que vous avez passé vous-même à préparer l'émission, vous l'aurez perdu en quelque sorte. Donc il y a différentes hypothèses, hein, c'est pas la seule hypothèse qui existe. Mais l'idée, ce serait toujours qu'en effet, si nous possédons un sens moral, c'est parce que ce sens moral nous a apporté des bénéfices à nous en tant qu'individus et à nos gènes, au-delà de ça, au cours de notre histoire évolutive.
Et il y a d'autres pistes, justement, pour lesquelles nous aurions développé à travers l'évolution un sens moral, d'autres pistes que celles conséquentielles ou que celles de l'intérêt, comme nous sommes des animaux sociaux, d'avoir des rapport juste entre nous.
Alors il y a une deuxième grosse piste, en fait il y en a plusieurs, mais il y en a une deuxième principale, outre celle que je viens d'évoquer, c'est que la morale, ça servirait à remporter des compétitions entre groupes. Donc il faut imaginer qu'au cours de notre histoire évolutive, on a évolué dans des populations qui étaient parfois en compétition les unes avec les autres, et on peut se dire que les populations, les groupes d'humains qui posséder le plus d'individus moraux ont plus facilement remporté leurs affrontements que les autres populations. Donc c'est un deuxième des gros bénéfices que peut apporter la morale, et ça pourrait expliquer pourquoi, par exemple, la morale est si souvent biaisée en faveur des intérêts de notre groupe, c'est-à-dire qu'on va tendance à considérer les comportements des gens de notre groupe comme plus moraux que les comportements des gens d'autres groupes, d'autres pays, etc.
Ouais, ça, c'est des biais cognitifs. On va y revenir. Hein. Je vois que ça intéresse aussi Mathias Pessiglione autour de la question pourquoi et comment notre cerveau nous fait faire ce que nous faisons. Vous nous avez proposé, enfin conseillé, un morceau que je trouve absolument génial, Stéphane Deboeuf. Il n'est pas toujours moral, si je peux dire ça comme ça, mais justement, il met en avant notamment les injonctions contradictoires de notre cerveau individuel, mais aussi de nos sociétés qui nous laissent et qui nous disent qu'il faut choisir entre le bien et le mal, le juste et le pas juste, en nous encourageant finalement aussi à faire le mal. Mathias Pessiglione parlait de notre rapport à la terre et à la nature, l'effondrement tout de suite ou pour plus tard, en tout cas c'est après moi le déluge, et c'est Younes sur RFI qui le rappe, l'effondrement.
Oh là 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 là, c'est terrible ce qui est en train de se passer, c'est terrible! L'effondrement! Alex Rooks à la prod, Younes au piano!
Alex, ma mère! On veut bien sauver la planète, mais on veut percer d'abord. On veut s'en mettre plein les pockets, ouais, qu'on se mette bien d'accord. J'ai hâte de voir nos teutés quand l'argent ne vaudra plus rien. Quand tout se sera effondré, peut-être qu'on redeviendra humain. Fuck les baleines!
La 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 la!
J'aime trop le saumon.
La 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 la.
Paris-Bruxelles.
La 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 la.
J'ai pris l'avion.
La 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 la.
Fuck les baleines.
La 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 la.
J'aime trop le saumon.
La 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 la.
Paris-Bruxelles.
La 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 la.
J'ai pris l'avion.
La 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 la.
Je veux juste un yacht et la meuf qui va avec.
Celle qui va avec le yacht.
Elle ou une autre tant que la plastique est impec. C'est pas mon dos si mes baskets sont faites par des petits namets.
Chacun ses problèmes.
La planète va très très bien, c'est juste nous qui sommes dans la merde.
Qui sommes dans la merde.
Qui sommes dans la merde.
Ouais ouais.
Ouais ouais. Je veux juste baraque sur la mer, la villa, le jet avec le chauffeur, le pilote. Ça m'arrange qu'on réchauffe l'air, ça m'arrange. Je paierai moins cher le chauffage, bénef. Je veux juste faire mon safari. Moi aussi je veux être heureux. Si on meurt tous, ça fait rien. On veut bien sauver la planète, mais on veut percer d'abord. On veut s'en mettre plein les pockets, ouais, qu'on se mette bien d'accord. J'ai hâte de voir nos teutés quand l'argent ne vaudra plus rien. Quand tout se sera effondré, peut-être qu'on redeviendra humain. Fuck les baleines,
la 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 la.
J'aime trop le saumon,
la 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 la.
Paris-Bruxelles,
la 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 la.
J'ai pris l'avion,
la 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 la.
Fuck les baleines,
la 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 la.
J'aime trop le saumon,
la 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 la.
Paris-Bruxelles,
la 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 la.
J'ai pris l'avion,
la 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 la.
Greta, elle casse trop l'ambiance. Si la banque y se fout, on s'en fout. Nous, on vit en France.
En France, nous vivons.
Ça fera plus d'eau dans la mer pour les vacances.
Plouf.
Et les ours polaires, ils savent nager la chance.
Ouf.
Traîne pas dehors si je pars à la chasse.
Touché.
On sauve pas le monde en faisant du tri,
non.
Les écolos, ils sont déprimants.
Ouais.
La viande, c'est plein de nutriments.
Mm-hmm.
Moi, moi aussi je veux faire du traîneau. Mes petits enfants, je les connais pas, je vais quand même pas me battre pour eux. L'effondrement, etc. Pour moi, c'est pour les peureux. Fuck les baleines,
la 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 la.
J'aime trop le saumon,
la 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 la.
Paris-Bruxelles,
la 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 la.
J'ai pris l'avion,
la 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 la.
Fuck les baleines,
la 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 la.
J'aime trop le saumon,
la 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 la.
Paris-Bruxelles,
la 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 la.
J'ai pris l'avion,
la 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 la.
Oh la 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 la, c'est terrible ce qui vient de se passer, c'est terrible. Alex Rock à la prod, Younes au piano, l'effondrement.
Oh là là, l'effondrement, version Younes sur RFI. Merci pour ce choix musical, Stéphane Debove. On n'en attendait pas moins de vous. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences cognitives, passeur de sciences sur votre chaîne YouTube Homo Fabulus. Et vous venez de publier aux éditions Humaines Sciences « Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal ?» Ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Et ce n'est pas tout, puisque nous avons aussi un exemplaire de l'ouvrage de Mathias Bessiglione, avec nous en studio, directeur de recherche INSERM en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau. Ouvrage à vous faire gagner, chers amis auditeurs, alors il s'intitule « Les vacances de Homo sapiens, notre cerveau entre raison et déraison ». Entre raison et déraison, c'est vous que je vais faire réagir, Mathias Bessiglione, sur ce titre qu'on vient d'entendre de Younes, parce qu'au fond, il parle de toutes nos injonctions contradictoires, celles de nos sociétés, celles qui sont dans notre cerveau, entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne devrait pas faire, le bien et le mal, ce qu'on a envie de faire, puisqu'on a envie de pas faire aussi, hein.
Oui, en fait, on peut essayer de maximiser un bien-être qui serait très individuel, très égoïste, et effectivement prendre l'avion parce que ça nous arrange et ignorer nos petits-enfants, comme c'est dit dans la chanson. Et en fait, la théorie de la décision ne prescrit pas quel est le bon comportement, mais ce qu'elle dit, c'est qu'il faut être stable et cohérent. Et différentes personnes peuvent maximiser différentes choses. La théorie ne dit pas, par exemple, qu'il faut gagner le maximum d'argent, comme on le croit souvent, mais que si on a décidé de maximiser une certaine grandeur, il faut s'y tenir. Donc si je suis, un missionnaire jésuite au XVIe siècle, je vais essayer d'avoir le plus de convertis possible parmi les Indiens. Si je suis un médecin humanitaire, je vais essayer d'avoir le plus de guérisons possible. Voilà.
Donc c'est vraiment, au fond, c'est s'en tenir à ce qu'on est soi-même sans se laisser trop embarquer par toutes les autres, par tout ce qui nous traverse en même temps dans notre cerveau. Ce serait ça, finalement, la morale ou la bonne décision juste, hein, plutôt que morale.
Oui, alors moi je dirais rationnel, puisque c'est un rationnel, sens technique assez précis. Bah, la stabilité correspond en fait à des... on parle d'axiomes, mais à des relations entre les préférences. C'est-à-dire que si je préfère... l'OM au PSG et le PSG à l'OL, alors je ne peux pas préférer l'OL à l'OM, parce que ça, ce ne serait pas cohérent, parce que ça veut dire que je ne peux pas ordonner les clubs de foot, en l'occurrence, sur une échelle de valeur. Et donc, c'est ce genre d'incohérence que chasse la théorie de la décision. Par contre, je peux être altruiste ou égoïste. Et ce qui m'intéresse, pour revenir au sujet de la morale, c'est qu'on voit dans le cerveau une certaine inscription dans l'activité cérébrale, jugements, des décisions qui peuvent être plus ou moins altruistes chez différentes personnes. Par exemple, il y a un jeu qui est bien connu, qui est celui du tir à la corde. Et on s'est rendu compte dans ce jeu que la force développée par chacun des participants dépend du nombre de personnes dans l'équipe. Donc en fait, si je dois tirer parmi, 20 personnes, je vais produire moins de force que si on est simplement deux. Et c'est ce qui est bien connu sous le terme de la dilution des responsabilités. C'est pareil pour les votes, par exemple. Si je vote dans ma commune, j'ai plus de poids que si je vote dans ma région ou dans mon pays. Et ce qui est intéressant du point de vue des neurosciences, c'est que... différentes personnes vont être plus ou moins prosociales, donc vont produire plus ou moins d'efforts pour la collectivité. Et ça se traduit par des voies cérébrales particulières qui sont plus actives chez ces gens-là que celles qui maximiseraient, par exemple, une récompense plus tangible, plus immédiate. Donc voilà, entre sauver la planète, pour faire un peu l'extrapolation par rapport à la chanson, et s'en mettre plein les pockets, ça correspondrait, je dirais, à des systèmes cérébraux différents.
Ah, des systèmes cérébraux différents, et au fond, finalement, faire le bien pour certaines personnes ou être juste, Stéphane Debove, ça pourrait faire du bien à certaines personnes, tandis que d'autres s'en fichent complètement. C'est un peu ça aussi.
Oui, il y a différentes possibilités. En fait, la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson, donc c'est exactement ce que disait Mathias, c'est pour montrer que, et c'est aussi pour illustrer ce qu'on disait en début d'émission, que c'est compliqué et on a plein de choses différentes dans le cerveau. Et on utilise parfois la métaphore du parlement d'instinct pour décrire ce qui se passe dans notre tête, c'est-à-dire que de la même façon que les députés au Parlement peuvent avoir chacun leur avis sur une proposition, mais qu'au final, ils devront tous se mettre d'accord pour voter sur une seule loi. On a un petit peu dans la tête plein de petits programmes cognitifs qui peuvent avoir chacun un avis différent sur le bon comportement à adopter, mais qui au final devront se mettre d'accord sur un seul comportement. Et donc, certains de ces programmes cognitifs sont moraux, mais il existe d'autres programmes cognitifs qui vont être beaucoup plus égoïstes. Il va y avoir des programmes cognitifs qui vont nous pousser à être paresseux. Et ça explique pourquoi on n'est pas forcément en permanence complètement moraux. Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent quand je dis que on a probablement dans la tête un sens moral universel, donc commun à toute l'espèce humaine, qui nous fait nous comporter de façon morale. On me dit, mais si c'est le cas, comment on explique qu'on soit si souvent immoraux ? Pourquoi est-ce qu'on observe encore tant de comportements immoraux ? Et donc ça, c'est une des réponses principales. C'est l'idée de dire que si on a un sens moral dans la tête, c'est pas la seule chose qu'on a dans la tête. On a plein d'autres choses dans la tête, plein d'autres programmes cognitifs qui nous font nous comporter de façon beaucoup plus égoïste.
Qui nous tire au fond dans tous les sens. Là, ça me fait penser vraiment à un dessin animé que certains auditeurs ont peut-être vu, qui s'appelle Vice Versa, avec tout ce qui se bat dans notre tête en même temps, tout ce qui existe dans notre tête en même temps. Alors depuis quand nous, les petits homos ou les petits momo sapiens, avons-nous inventé le bien et le mal, hein, on reviendra sur ces notions-là, pourquoi ça fait du bien à certains et du mal à d'autres. Comme le rappelait Nicolas Baumard, cette fois-ci, ça c'est votre professeur et directeur de thèse à l'ENS, Stéphane Deboeuf. C'est lui qui a inspiré vos travaux. Nicolas Baumard est chercheur en psychologie, en anthropologie et en philosophie à l'ENS. Nous l'avions reçu il y a quelques années autour de son ouvrage « Comment nous sommes devenus moraux, une histoire naturelle de la morale ». Je vous propose de l'écouter justement sur la genèse de la morale chez tous les petits et petites momo sapiens que nous sommes.
Ça apparaît assez tôt, sans doute plus tôt qu'on le pensait avant. Avant, on pensait que ça arrivait vers 5-6 ans, que les enfants avaient du mal avec les normes de bien et de mal. Et en fait, ça apparaît dès 18 mois, par exemple. Il y a des expériences qui tendent à penser que ça apparaît peut-être encore plus tôt. En tout cas, dès que les enfants commencent à parler, vous voyez qu'ils disent « c'est à moi, c'est mon tour, c'est pas juste, il en a eu plus ». Où il faut faire attention, où ils culpabilisent quand ils ont tapé quelqu'un, etc.
Donc c'est le sentiment que, c'est par rapport à soi-même qu'on juge ce qui est bien ou ce qui est mal, ou ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste.
Forcément, ça commence par rapport à soi-même, parce que quand on est un bébé, c'est les choses qui sont les plus évidentes. Il y a des psychologues qui ont étudié les justifications des enfants quand ils maîtrisent un peu mieux, mais là on parle vraiment des enfants de 2 ans, des enfants qui sont au bac à sable, qui sont même pas à l'école maternelle, et ces enfants-là donnent des justifications intéressantes. Par exemple, ils donnent pas la même justification selon qu'ils veulent un jouet qui leur appartient ou ils veulent un jouet qu'un autre enfant utilise depuis un moment. Ils disent « Ah, c'est le mien », ils disent « ça y est, tu l'as eu assez ». C'est très, très subtil.
C'est-à-dire qu'ils font la différence déjà entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas.
Ce qui est juste, en l'occurrence, qui va trop loin en faveur de quelqu'un et qui est injuste en leur faveur.
Donc, mais ce qui veut dire pour vous, Nicolas Baumard, que c'est inné, en fait, chez le petit homme, ou que ça se développe petit à petit, que ça évolue, parce que la morale des enfants de 18 mois, elle n'est pas tout à fait la même, heureusement, que la nôtre. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors oui, l'idée, c'est que c'est vraiment inné. C'est quelque chose qu'on a dans la nature humaine, qui vient de notre patrimoine génétique, qui s'exprime dans leur cerveau très rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'un nourrisson, il a ce sentiment moral. Ça ne veut pas dire que tout est construit dès la naissance. On peut prendre l'exemple de la marche. La marche, c'est quelque chose d'inné. On est préparé de manière innée à marcher.
On est fabriqué pour marcher.
Mais ça prend 15-18 mois. Et là, c'est pareil. Là, on est préparé à être moraux, mais ça prend 2 ans, 3 ans, 15 ans, parce qu'on a besoin de beaucoup d'informations. Et on apprend tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, on apprend à des nouvelles informations, on réfléchit sur la façon dont on se comporte avec les autres, on s'améliore dans nos jugements moraux.
Nous voilà donc câblés, pré-câblés notre cerveau humain pour être moraux. On devrait s'améliorer avec l'âge. Vous avez commencé à l'évoquer, Stéphane Deboeuf. On ne s'améliore pas tant que ça avec l'âge, finalement, et pas tant que ça avec les siècles et les générations non plus. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire entendre un peu plus ce sens moral ?
Déjà, je suis pas complètement sûr qu'on s'améliore pas tant que ça.
On s'est amélioré, oui.
Oui, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais si on regarde un petit peu en arrière, moi, par exemple, j'ai pas tellement envie d'habiter ou de vivre au temps des Romains ou même au XIXe siècle.
C'est vrai.
Je pense qu'il y a quand même un certain progrès qui a eu lieu. Après, c'est vrai que il reste toujours des progrès à faire. On le voit bien aujourd'hui avec les questions morales qui sont d'actualité sur l'environnement. On en a parlé sur la souffrance animale ou même juste la justice sociale, l'égalité homme-femme, tout ça. Il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Ou la justice sur Terre, l'équité sur Terre.
Exactement. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais je ne serais pas complètement pessimiste. Je pense qu'on progresse. On progresse chaque jour et voilà. Et
Mathias Pessiglione, j'aimerais bien vous faire réagir parce que vous dites, c'est par rapport aux prises de décision, mais c'est un peu la même chose, qu'on est beaucoup sur l'emprise de nos émotions, que l'insula, par exemple, est mauvaise conseillère. Est-ce que justement ce parlement intérieur dont parlait Stéphane Deboeuf, toutes ces autres voix, l'inconscience qu'on ne sait pas, nos hormones, nos biais cognitifs, nos conditionnements, est-ce que c'est tout ça qui sont autant de petites voix qui vont à l'encontre de ce sens moral, entre guillemets?
Oui, j'aime beaucoup cette idée de parlement intérieur. Je pense que c'est exactement ça. On a différentes représentations dans le cerveau qui tirent un peu à U et à Dia. C'est pour ça qu'il y a des conflits. C'est parce que toutes les parties du cerveau ne désirent pas la même chose. On peut même désirer et redouter une même chose. En fait, un des principes d'organisation du cerveau, c'est celle du système opposant avec un système, on va dire, qui va chercher son plaisir et qui va approcher les récompenses, comme on dit
circuit de la récompense. Ouais, voilà.
Et puis, on a un peu son symétrique qui va être, au contraire, dans l'évitement pour essayer d'éviter les punitions. Et suivant...
Les souffrances, en fait. On est toujours en train de chercher ce qui nous fait du bien et d'éviter ce qui va nous faire souffrir. C'est ça.
Oui, c'est exactement ça, on pourrait dire. C'est les rênes et le fouet.
Les rênes et le fouet, ou la carotte et le bâton.
Ou la carotte et le bâton, exactement. Ça peut expliquer beaucoup de choses, notamment des différences inter-individuelles. Certains seront plus dans le plaisir et d'autres plus dans l'évitement, mais aussi chez une même personne, des variations au cours du temps, selon qu'on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. On va voir le même verre à moitié vide ou à moitié plein. Et dans des cas pathologiques, on peut se concentrer que sur un des deux aspects. Alors, je pense par exemple à ces comportements compulsifs sur les jeux d'argent qui sont induits par des médicaments qui favorisent la dopamine. C'est des médicaments anti-parkinsoniens. Et c'est pas rare, en fait, quand on donne ces médicaments à ces patients, chez 15% d'entre eux, ils développent ce genre de syndrome. Il y a eu un procès retentissant il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui dépensait son salaire au casino. Et ça peut s'expliquer.
Des médicaments qu'il prenait contre produisaient de la dopamine, lui faisaient produire plus de dopamine.
Exactement. Il a gagné son procès, au passage, parce que cet effet-là n'était pas indiqué dans les effets indésirables du produit. Et on peut l'expliquer par un déséquilibre entre les deux systèmes. C'est-à-dire que si je ne considère que la perspective de gain et que je néglige complètement la possibilité que je vais ruiner ma famille, et ben je continue à jouer, en fait. Voilà.
Alors, qui décide, hein, finalement? Parce qu'on s'en rend bien compte, tout ça, ça joue, mais on a parlé de parlement dans le cerveau, hein, on n'est pas que biologique, on n'est pas que culturel. Y a-t-il encore un pilote sous notre crâne, dans notre cerveau, vous demandez-vous? Mathias Pessiglione, à la fin de votre ouvrage, et la réponse, elle n'est pas désespérante du tout, bien plus complexe qu'il n'y paraît. Vous nous la donnerez après votre choix musical, très joli choix également, puisqu'il s'agit de Billie Holiday, Now or Never. Ah oui, autour de la décision et des choix impossibles sur RFI.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Hey there, daddy, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, or never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, or never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now, baby, or never, 'cause you've wasted so much time. Now, baby, or never, 'cause you can't make up your mind. Now, baby, or never, and it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, or won't fall in love. love with me. I'm gonna call you once more on the telephone. I'll give you till 12 and I'll be gone. Now, baby, or never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, or never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now, baby, or never, 'cause you wasted so much time. Now, baby, or never, 'cause you can't make up your mind. Now, baby, or never, and it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, or won't fall in love with me. I waited last night for you to call. You give me no consideration at all. It's now, baby, or never, 'cause I wasted so much time. Now, baby, or never, and you must make up your mind. Now, baby, or never, and it ain't no fault of mine. It's gotta be yes or no. It's either you stay or go. You can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, baby, or won't. You do, baby, or don't. Either you will, baby, or won't fall in love with me.
It's now or never, Billie Holiday sur RFI. Merci pour ce joli choix. Pas seulement musical, Mathias Pessiglione, parce qu'il parle aux neuroscientifiques que vous êtes, qui étudient les mécanismes cérébraux qui motivent nos comportements et nos prises de décision. C'est maintenant ou jamais, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, et tu fais quoi?
Oui, exactement, j'allais dire, c'est pour moi le prototype de la décision naturelle, alors pas forcément dans le cadre d'une relation amoureuse, mais it's got to be yes or no, it's either you stay or go, c'est soit tu restes, soit tu pars. C'est en fait une décision qui est à l'œuvre chez toutes les espèces qui vont par exemple exploiter les plantes ou les proies d'un milieu naturel. La décision qu'elles doivent prendre à chaque instant, en fait, c'est est-ce que je continue de rester sur mon territoire parce qu'il y a encore des fruits à cueillir dans l'arbre ou il y a encore des fleurs à butiner sur la plante, ou est-ce que je change? Et évidemment, changer, ça a un coût parce que je ne sais pas ce que je vais trouver, parce que ça va me demander un effort, parce qu'il faut que je voyage, etc. Et donc ça, on pense que c'est la décision naturelle au sens où le cerveau est fait pour prendre ce genre de décision. Est-ce que je reste sur ma stratégie par défaut, ou est-ce que je change, je m'en vais et je vais explorer
On est vraiment câblé. Enfin, le cerveau est câblé pour ça. Le cerveau des mammifères, on pourrait dire, ou même des vivants en général.
Oui, ce qui explique plein de choses, notamment le biais qu'on a pour l'option par défaut. C'est-à-dire que toute chose étant égale par ailleurs, on a tendance à rester sur notre stratégie par défaut.
Et c'est pour ça qu'on vaut mieux que deux, tu l'auras, ouais, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. C'est pour ça qu'on se fait parfois exploiter sur des propositions en ligne ou sur papier, où vous avez des petites cases qui sont déjà cochées, comme si c'était la stratégie par défaut. Et évidemment, décocher la case, ça a un petit coût. Ça demande un petit effort.
Et ça veut dire aussi. Dans le neuromarketing, on peut aller très loin d'ailleurs.
Oui. Alors, au passage, connaître un petit peu les façons dont le cerveau nous détermine, c'est aussi se protéger contre les influences de la pub, du marketing, etc. Mais pour finir sur la décision naturelle, ça veut dire aussi que le cerveau n'est pas fait pour des décisions plus artificielles du monde contemporain. Par exemple, est-ce que je reste sur mon comportement actuel ou est-ce que je change? Les décisions du type qu'on doit prendre devant, je ne sais pas, un distributeur de boissons ou un site internet où on doit choisir son partenaire. On a plusieurs options qui arrivent en même temps.
Et comment on
fait ? Le cerveau n'est pas fait du tout pour ça. Et c'est ce que j'essaie de développer un peu dans le bouquin aussi. C'est que beaucoup de situations du monde contemporain ne correspondent pas en fait à la situation prototypique pour laquelle le cerveau est fait ou a évolué.
Voilà pourquoi c'est parfois si compliqué. Voilà pourquoi on se fait des nœuds dans le cerveau. Et voilà pourquoi pourquoi les vacances de Momo Sapiens, titre de votre ouvrage, ne se passent pas toujours si bien. Notre cerveau entre raison et déraison, ouvrage dont je vous le rappelle, nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. À gagner aussi Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal, l'ouvrage de Stéphane Debove, chercheur et créateur de la chaîne YouTube Homo Fabulus, qui est en ligne en direct avec nous autour de la question pourquoi notre cerveau nous fait faire ce que nous faisons, en bien comme en mal. Pourquoi sommes-nous pas toujours maîtres de nos choix, de nos comportements, de nos décisions et de nos jugements? Voilà qui interroge les philosophes depuis toujours. Questionnement renouvelé, on vient de le comprendre par les récentes découvertes en neurosciences, qui n'expliquent pas tout, mais qui ouvrent sur d'autres pistes. La preuve tout de suite avec cette question que le physicien et philosophe des sciences, Étienne Klein.
J'avais une question à vous poser, à vous qui êtes spécialiste du cerveau. Gaston Bachelard a écrit « Faire de la science, c'est penser contre son cerveau ». Quel sens donnez-vous à cette expression, sachant que, d'après ce que j'ai compris, c'est avec le cerveau que l'on pense?
Mathias Pessiglione, vous voulez répondre à Étienne Klein, puis ensuite Stéphane Debove?
Oui, oui. Alors ça me fait penser au paradoxe que vous avez présenté au début, le cerveau a ses raisons que la raison ne connaît pas, puisque c'est évidemment le même cerveau qui dit que le cerveau n'est pas rationnel quand il prend ses décisions. Donc celui qui agit et celui qui analyse, c'est le même, mais il n'est pas... les deux versions ou les deux moments ne cadrent pas forcément.
C'est la même personne. Et vous, en plus, qui étudiez le cerveau, vous le faites avec votre propre cerveau aussi, hein, on est d'accord.
Oui. Alors, le sens que je donnerais comme ça... C'est savoir avec l'émancipation, en fait. C'est-à-dire que comprendre les mécanismes qui nous déterminent dans le cerveau, ça permet de choisir, de se laisser déterminer ou pas. Et quelquefois, c'est bien, parce qu'en fait, si on a des automatismes, par exemple, quand je suis en colère, je vais me battre, c'est qu'ils ont été sélectionnés et donc ils sont adaptés au cas moyen dans l'environnement dans lequel le cerveau a évolué. Et de fait, c'est très difficile de se battre si on n'est pas en colère. Donc, quelquefois, il faut être en colère parce que ça permet de revendiquer ses droits. Mais quelquefois, évidemment, ce n'est pas adapté. Si je cogne sur mon patron ou sur mon chien...
Non, ce n'est pas adapté du tout.
Ce n'est pas adapté du tout. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois suivre la pente naturelle de mon cerveau, c'est-à-dire le réflexe de bas niveau qui va mettre en place un certain comportement, ou est-ce que je dois le remplacer par une stratégie plus adaptée? Et ça fait appel à des capacités de contrôle qui sont... essentiellement dû au cortex préfrontal latéral, donc la partie du cortex préfrontal qui se développe le plus tard chez l'adulte et qui fait l'essentiel de la différence entre notre cerveau et les cerveaux d'autres espèces, y compris de primates.
Pourquoi et comment évoluer, justement, pour essayer peut-être de quoi? D'aller contre son cerveau qui nous pousserait vite à faire le mal, entre guillemets, c'est-à-dire à se battre et puis se dire, oula, je pourrais peut-être faire autre chose. Comment pourriez-vous répondre à cette question de Gaston Bachelard et d'Étienne Klein, Stéphane Debove? On pense avec et contre son cerveau?
Oui, tout à fait, avec et contre. Moi, je suis assez d'accord avec cette citation, voire même très d'accord. Et dans le cas de la morale, elle me fait penser à deux choses en particulier. Elle me fait d'abord penser que moi, en tant que chercheur qui étudie la morale, je suis souvent confronté à des jugements moraux avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais que je dois quand même prendre au sérieux. Donc, par exemple, il y a des expériences qui ont montré que certaines personnes, elles trouvent immoral de brûler le drapeau de leur pays, même si c'est fait chez elles, en privé, et que ça ne cause aucun tort à personne. Et donc, dans ce cas-là, je suis forcé de penser contre mon cerveau et d'essayer de comprendre pourquoi ces personnes pensent que cet acte est immoral, même si moi, je ne pense pas la même chose. Et c'est d'autant plus important que quand on suppose, comme moi, qu'il existe quelque chose qu'un sens moral, comme un sens moral universel dans la tête de tous les gens, comment ça se fait qu'un sens moral universel puisse produire des jugements moraux qui soient si différents?
C'est ça, ça c'est une énorme question, et puisse produire le mal, parfois, sous couvert de morale.
Exactement, et puisse produire le mal également. Et il y a une deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est la question de l'objectivité de la morale. Parce qu'on a souvent l'impression que la morale, c'est quelque chose d'objectif, quelque chose d'extérieur à nous, qui s'impose à nous plus que quelque chose qui est produit par nous, surtout comparé avec d'autres ressentis. Par exemple, le cas des goûts alimentaires. Je ne sais pas si vous aimez les épinards, Caroline.
Oui, ça va, moi je peux en manger, oui.
Donc voilà, si vous me dites que vous aimez les épinards et que moi je n'aime pas ça, je vais me dire, Bon, ben ok, on a chacun notre avis, c'est pas un problème, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Oui.
Mais dans le cas de la morale, c'est différent. Mmh. Si vous me dites, par exemple, que vous trouvez ça normal ou acceptable de tuer des bébés innocents qui viennent de naître...
Non, je peux pas vous dire ça.
Mais si vous me le disiez, j'aurais quand même énormément de mal à me dire que on a chacun notre avis, que votre avis vaut autant que le mien et que aucun de nous deux n'a raison ou n'a tort. Oui, donc on a l'impression que la morale, il y a un aspect objectif qui n'est pas présent dans le cas des goûts alimentaires, par exemple. Et une fois de plus, en tant que chercheur, je dois essayer de penser en dehors de mon cerveau pour savoir si ce caractère objectif de la morale, c'est juste une illusion produite par notre cerveau, ou si ça nous dit réellement quelque chose d'intéressant sur ce que peut bien être la morale.
Oui, c'est ça. C'est non seulement penser avec votre cerveau, contre votre cerveau, mais en se décalant aussi de votre cerveau, puisque c'est à votre cerveau que vous réfléchissez, à nos cerveaux à tous, et aussi effectivement à se dire comment, comment est-ce que finalement, est-ce que faire le bien nous ferait pas un peu du bien à l'intérieur, ou avoir le sentiment d'être juste nous ferait pas un peu du bien à l'intérieur, même et à notre cerveau et à notre corps entier, puisque tout fonctionne ensemble. Mathias Pessiglione.
Ben si, bien sûr. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle les gens cherchent à faire le bien, hein, parce qu'ils y trouvent une gratification. Et c'est un cercle vertueux, en quelque sorte, puisque en faisant du bien aux autres, on se fait du bien aussi à soi-même.
On va peut-être s'arrêter là-dessus. Dernière petite conclusion, Mathias ?
Non, j'avais envie de dire que non seulement il faut penser contre son cerveau, alors c'est vrai de tous les chercheurs, hein, où on critique sans arrêt ses propres hypothèses, mais il faut penser aussi avec le cerveau des autres.
Merci. Avec le cerveau des autres, bien sûr, on est en plus reliés, et puis ça fera peut-être avancer les choses et évoluer les choses. Merci infiniment à tous les deux de nous avoir un peu éclairés sur nos comportements, nos décisions, nos jugements, de nous avoir un peu déculpabilisés aussi. Pour en savoir plus, je renvoie nos auditeurs et internautes à vos ouvrages respectifs. Donc Mathias Pessiglione, Les vacances de Momo Sapiens, notre cerveau entre raison et déraison, à lire absolument, paru aux éditions Odile Jacob. Et Stéphane Debove, Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal, aux éditions Humaine Science. Je renvoie aussi Stéphane sur votre chaîne YouTube Homo Fabulus qui explore le comportement humain et votre petite série sur la morale, cette chose bizarre. Je vous rappelle aussi, chers amis auditeurs, que ces deux ouvrages sont à gagner si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. Avec un peu de chance et de patience, ils seront à vous. Merci Stéphane Debove, merci Mathias Pessiglione. Vous revenez quand vous voulez, réveiller un peu nos neurones, sortir de nos idées toutes faites et apprendre à penser donc contre son cerveau, avec son cerveau et avec celui des autres. On se quitte entre humain, trop humain et très Momo Sapiens, avec un petit extrait d'un morceau qui me semble de circonstance, Highly Suspect, ça c'est le nom du groupe rock'n'roll américain. My name is human.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr. I'm feeling the way that I'm feeling myself, like everyone else. Gotta remember that nobody's better than anyone else here. Look what they do to you. What they do to me. You must be joking if you think that either one is free. Here. Get up off your knees, girl. Stand face to face with your God. Find out what you are.
My name, your name is Human. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast. Merci à Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en télétravail, Caroline Lachowski au micro et merci de votre curiosité.
Ce mardi, vivez sur RFI.